Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 22, Gestation. Pendant toute la durée du jour, à Eleanor et Keller, séparés, s'adonnaient sans compter à leur œuvre commune. Ils n'économisaient rien d'eux, ni leur temps, ni leur fatigue, ni leur corps, et se montraient toujours disponibles, toujours énergiques, trouvant des solutions là où il n'y en avait pas, insufflant sans relâche la force qui les animait à la foule qui les suivait. Mais à la tombée du jour, ils se retiraient tous deux en eux-mêmes, et nul trouble, nulle inquiétude ne pouvait forcer leur porte. Réfugiés au deuxième étage, sous la mansarde de la frontière, dans une bulle de lumière, de silence et de chaleur, ils se ressourçaient chaque soir et reposaient leur corps éreinté, leur âme inquiète, à la tendre étreinte de l'autre. Ce soir, Keller regardait le ventre rond à Eleanor. Il l'avait touchée quelques minutes plus tôt, et avait senti la vie palpiter en elle, dans un sentiment bizarre, fait d'excitation, de peur et d'incrédulité. Il aimait à Eleanor, et leur enfant était un prolongement naturel de leur amour. Mais il ne s'imaginait pas père, et chassait cette pensée lorsqu'elle lui venait, peut-être parce qu'un pressentiment récurrent lui murmurait qu'il ne survivrait peut-être pas au combat. À Eleanor, elle souriait, dans un état paisible qui tenait du miracle. Elle avait une sérénité puissante et communicative qui faisait paraître dérisoires les aléas et les contraintes de la situation. Tout se passait comme si, à l'instar de l'enfant qui prenait forme, inéluctablement, en elle, la révolution en gestation se développait dans la ville, tout aussi inéluctablement. Elle en était l'instrument, capable d'infini, mais le vaste programme qui se déroulait était au-delà d'elle, au-delà de Keller. Il n'avait qu'à se laisser porter par le destin. La tête posée sur la poitrine de Keller, à Eleanor caressait son ventre, tandis que Keller lui caressait les cheveux. « Plus qu'une lune, dit-elle, la cité sera-t-elle prête, mon amour ?»« Il le faudra bien, dit-il, nous avons juré qu'il naîtrait dans un monde juste, qu'il ne serait ni opprimé ni oppresseur. »« La révolution, murmura-t-elle, avec une sorte de respect sacré, tant de choses en si peu de temps. As-tu choisi la date et l'heure ?» « Je dois m'en entretenir avec Aumont demain, dit-il. Je pense que nous arrivons à l'apogée de notre motivation. Attendre davantage serait une erreur. Nous avons besoin de nous raccrocher à une date, de concentrer tous nos efforts vers un point unique. » « Comment se débrouillent les hommes au combat ?» Keller eut une moue soucieuse qu'Eleanor ne vit pas. « Ils sont dégrossis, dit-il. Ils sont maladroits. Mais leur ardeur compensera leur manque d'expérience. Leur ardeur et leur nombre. » Comment résiste-t-il au verbe ? De mieux en mieux, dit à Eleanor. Crois-tu qu'ils résisteront au premier assaut de verbe de la Guilde de l'Ordre ? Oui, je crois. La foi d'Eleanor rassura Keller. Il se souvint de son propre exploit, sans la moindre préparation, lorsqu'il avait résisté à son père. Lui aussi croyait au miracle. La Guilde de l'Ordre ne sera pas le plus difficile, dit à Eleanor. Ma seule inquiétude vient de la Guilde de l'Ombre. À Eleanor avait parlé à Keller de sa rencontre avec le maître Sornard, mais il avait du mal à mesurer l'étendue de ses pouvoirs. « Ils sont peu nombreux, objecta-t-il. « Peu importe, dit-elle. S'il défend la haute ville, tout sera compromis. Pourquoi ne la défendrait-il pas ?»« Parce qu'il n'est pas loyal, dit-elle. Pendant mon bref contact avec lui, j'ai eu le sentiment qu'il menait ses propres desseins et qu'il ne comptait pas me détruire. « Est-ce que tu as peur ?» demanda Keller à voix basse. « Les accouchements se font dans la douleur, dit-elle, et dans le sang. Mais la douleur et le sang n'ont pas de sens face à la force de ce qui naît. » Keller médita un instant sur ses paroles, puis, les yeux mi-clos, sa main à nouveau sur le ventre, sombra dans une douce somnolence, rythmée par la respiration régulière d'Eleanor et par le battement cardiaque, lointain et presque imperceptible, de leur enfant déjà vivant. Chapitre 23. Le grand œuvre. Le savoir était un pic vertigineux, dont le sommet baignait dans un clair de lune perpétuel et glacé. La plupart des hommes batifolaient dans les vallées, ou s'amusaient à escalader les petites pentes de sa base, petits versants fleuris et bucoliques qui ne se mesuraient pas à l'ivresse dangereuse des hautes altitudes. Le savoir ne s'unifiait qu'à la fin, au point unique où convergeaient toutes les ascensions, à la limite entre terre et ciel. Là où l'on devait contempler les limites de l'univers, la petitesse de nos origines et la puissance écrasante des forces qui nous régissent. Seuls quelques grands solitaires en avaient entrepris la conquête, dont les traces difficiles à suivre s'estompaient dans le temps. Quelques grands génies au-delà des contingences du sentiment, hypnotisés par le sommet, gravissant patiemment, pas à pas, les marches de la connaissance. Sornard était de ceux-là. Il avait accepté les grandes solitudes de celui qui ne dialogue qu'avec les morts, feuilletant sans relâche leur palimpseste poussiéreux, avide d'ingérer leur héritage pour monter toujours plus haut. Parmi les milliers de pages noircies, quelques sentiers apparaissaient. Des rumeurs de pouvoir surhumain, des échos de vie éternelle, des reflets de divinité. Le grand œuvre de Sornard progressait lentement, mais il touchait à son but. Il ne lui manquait plus qu'une recette, une distillation complexe d'ingrédients rarissimes, dont le produit permettrait à son âme de quitter son corps. Il n'était pas très sûr encore des effets sur le corps, car le livre contenant les précieuses informations lui manquait. Le fameux Codex Necromantis, légendaire héritage du grand Califour, dont la biographie se perdait dans les siècles. Mais la persistance de l'âme, non pas autonome, mais transsubstantiée, était avérée par de nombreuses sources. L'âme ne pouvait survivre séparée de la matière, mais elle pouvait gagner suffisamment de puissance pour changer de véhicule, s'infuser dans un lieu, par exemple, ou dans un nouveau corps. Et le choix de Sornard était fait depuis longtemps. La cité d'Albâtre serait son corps. Il la hanterait jusqu'à sa moindre pierre. Et si l'expérience se révélait pénible, il avait tout préparé pour rendre sa décision réversible. Il avait créé sa secte, la secte dont il allait devenir le dieu, et les frères sombres, devenus plus puissants qu'aucune formation de sa connaissance, lui assureraient la pérennité. Son corps serait gardé par eux, et un autre corps plus parfait serait élevé expressément pour accueillir son âme. Ce choix-là aussi était déjà fait. L'enfant aspirerait depuis toujours à l'illumination de son dieu, et lorsque l'âme de Sornard le posséderait, il n'y aurait ni résistance ni violence, mais mariage parfait. Joris serait son grand prêtre, son interlocuteur, celui qui respecterait à la lettre les instructions qu'il laisserait et celles qui continueraient à lui donner sous sa forme éthérée. Il se laissait enivrer par ses réflexions lorsque le hasard et même la providence vint cogner à son nuit. Un frère sombre venait l'avertir de la présence du chancelier de la haute école, une visite des moins réglementaires et des plus étranges, compte tenu de l'aversion totale que le chancelier avait pour la guilde de l'ombre. Piqué par la curiosité, Sornard quitta son office, traversa la caserne, où le silence n'était troublé que par le cliquetis des armes, et décida d'accueillir le chancelier dans un vestibule totalement nu. Le chancelier semblait fort mal à l'aise de l'accueil qui lui était fait, comme si, en pleine haute ville, il venait de fouler un sol totalement étranger. Mais la nécessité brillait dans ses yeux d'une lueur froide. Il savait ce qu'il faisait et ne venait pas importuner Sornard pour rien. Sornard hésita à lui infliger une sonde mentale, mais y renonça, préférant l'écouter d'abord. « Soyez bref et allez droit au but, » dit-il sèchement. « Ne vous inquiétez pas, l'atmosphère n'incline pas particulièrement à la causerie. Connaissez-vous le livre des livres ?» Sornard hocha la tête en signe de dénégation, son intérêt décuplé. « Il s'agit d'un ouvrage unique, extrêmement précieux, le trésor de la bibliothèque de la Haute Université. Il a été rédigé il y a de cela 3 générations par un spiritualiste qui y a consacré toute sa vie. Il fait plus de 10 000 pages. « Droit au but, » répéta Sornard. Ce livre contient un résumé et surtout une localisation de tous les livres connus du monde civilisé. Composé avec une ingéniosité admirable, il fonctionne par différents index thématiques ou par auteur, de manière à pouvoir accéder le plus rapidement possible à l'information souhaitée. D'une érudition époustouflante, j'avoue que je n'ai jamais pu y relever la moindre erreur. Le spiritualiste a voyagé bien au-delà des mers et a dû apprendre bien des langues pour réaliser une telle somme. Les yeux de Sornard brillaient d'une concupiscence absolue. « J'ai supposé que ce livre vous intéresserait, » continua le chancelier. « Il est de notoriété publique que vous vous adonnez à des recherches obscures. »« Que voulez-vous ? » demanda Sornard. « Rien que de très facile pour vous et de très difficile pour moi. Quelques meurtres. »« Qui ? » une poignée de bas citoyens, dont j'ai porté le nom sur cette liste, et notamment quelques apostats. Vous devez non seulement les éliminer, mais également les faire parler, afin de savoir qui les aide en haute ville. Et, bien sûr, une fois que vous aurez cette information, il faudra éliminer également les hauts citoyens concernés. Ce sont des traîtres, ajouta le chancelier avec embarras. Je ne vous demande pas vos motifs et je n'ai cure de les connaître. Votre visite en elle-même pourrait, à juste titre, être considérée comme de la haute trahison. Il est donc tout à fait inutile d'user d'une parodie de justice pour maquiller ces morts. Vous avez recours à mes services d'assassin, en tant que client privé, et vous êtes prêt à payer cher. La haute ville n'a rien à voir là-dedans. Le chancelier eut un frisson d'horreur, en constatant à quel point Sornard faisait cavalier seul. Mais il n'avait pas le temps d'y songer pour l'heure. À quoi lui servirait le livre ? Il ne voulait pas le savoir. Parmi les bas citoyens, il en est deux dont la mort m'importe particulièrement. Il s'agit d'Elénor et du bâtard Keller. Sornard parut réfléchir une minute. Les bas citoyens figurant sur votre liste auront parlé et donné leur dernier souffle dans très peu de temps. Les hauts citoyens concernés, selon leur nombre, me poseront un peu plus de difficultés. Disons que toutes ces personnes pourraient être exécutées d'ici à une semaine, à l'exception de deux, Elénor et Keller. Vous soutenez leur cause ? Demanda vivement le chancelier. Une flamme de colère froide brilla dans les yeux de Sornard. Non, il ne soutenait la cause de personne, et encore moins de cette sorte de gens. Le chancelier prit conscience de son erreur en même temps qu'il parlait, mais ne pouvait ravaler ses mots. Je ne vous demande pas vos motifs, et vous serez aimable de ne pas me demander les miens. Elénor et Keller ne peuvent être exécutés avant une lune. Une lune, répéta le chancelier, dont la volonté de savoir avait grand mal à se taire. Vous devrez vous contenter de ma parole en ce qui les concerne, et me remettre le livre à la fin de la semaine. Négocier avec Sornard paraissait hors de propos. Le chancelier comprit qu'il n'avait aucun moyen d'infléchir sa décision, et qu'il devait prendre la sienne dans les secondes suivantes. Fort bien, dit-il au bout d'un moment, avec le sentiment d'avoir été floué. Faites en sorte que les meurtres ressemblent à des accidents ou à des suicides pour les hauts citoyens, et faites ce que vous voulez pour la ville basse. Vous avez intérêt à m'avoir dit la vérité concernant le livre, dit lentement Sornard. Je ne suis pas homme à travailler pour rien. Le chancelier lui tendit la liste sans ajouter un mot, puis un frère sombre surgit de nulle part, le raccompagna jusqu'à la porte dans un silence de pierre.